Merci beaucoup, merci pour votre invitation à nouveau cette année. En effet, comme vous venez de le dire, en préparant cette rencontre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de s'interroger, puisque la thématique est celle du dessein, c'est-à-dire au fond du projet de Dieu sur le monde, de s'interroger sur la place, pour dire les choses simplement, du politique dans ce projet. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle du politique, compris comme la forme communautaire, si vous voulez, de la vie humaine, avec son histoire, ses institutions, les pensées, les conceptions du politique qui surgissent à peu près à toutes les époques. Au fond, vous voyez, je voudrais me risquer à un regard de sagesse théologique, donc dans la lumière de la révélation, sur cette réalité du politique. C'est une chose qui n'est pas très courante, hein, puisque la plupart du temps, quand on parle du dessein de Dieu, on a une compréhension individuelle de la chose, le dessein de Dieu sur chacun. C'est évidemment parfaitement légitime et premier. Oui, mais il se trouve que dans son dessein créateur, Dieu n'a pas créé les hommes, le genre humain, comme une juxtaposition d'individus, n'est-ce pas? Précisément, il les a créés comme appartenant à un genre, une communauté, une espèce, je vais le redire dans un instant. Oui. Je crois que sur ce sujet, bien qu'on s'y réfère peu, l'écriture nous enseigne et l'histoire aussi. Et au fond, mon propos sera très simple ce soir. Je voudrais, dans un premier temps, justement, essayer de rappeler certaines données que vous connaissez d'ailleurs de l'écriture sainte sur le sujet, pour essayer d'éclairer le sens du politique, donc du communautaire, du commun, si vous voulez, hein, le common, comme disent les anglo-saxons, dans le dessein de Dieu. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de voir plus historiquement, justement, comment les hommes ont cherché à répondre à cela, et en particulier comment les chrétiens ont cherché à répondre à cela, puisque la plénitude de la révélation du dessein de Dieu nous est donnée dans la révélation chrétienne spécifiquement. Et puis, dans un troisième temps, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de faire de l'histoire ou de spéculer, je voudrais m'interroger un petit peu sur la situation contemporaine. Qu'en est-il, hein, aujourd'hui, concrètement, et comment cela peut-il éclairer, et est-ce que cela peut éclairer, comme le disait le père Duplessis il y a quelques instants, le comportement, l'agir, finalement, des hommes que nous sommes, appartenant à une communauté dans l'ordre politique. Donc, quelques mots pour commencer sur, en me fondant sur l'écriture, sur le sens finalement de ces communautés de personnes. Vous savez, le terme utilisé par la Bible pour en parler est assez spécifique, il ne faut pas le comprendre au sens moderne, c'est les nations. Hein. Quand vous fréquentez l'Ancien Testament, il est question des nations. Hein. Alors, je vais venir. C'est le livre de la Genèse qui est pour nous la source des enseignements les plus significatifs. Ce que je voudrais souligner, et c'est très important, je crois, de le rappeler, c'est qu'à l'origine, lorsque le monde sort des mains du Créateur, le genre humain, ou l'espèce humaine, les humains, ont vocation à ne former qu'une unique famille. Immense, sans doute. Innombrable. Mais une unique famille. Et, vous le savez, ce sont les premiers chapitres du livre de la Genèse qui nous donnent à voir les conséquences sur le genre humain du péché de l'homme. Du péché de l'homme qui n'est, au fond, que le fait que l'homme se soit détourné, justement, de la volonté divine, qu'il n'ait pas accepté de s'y soumettre, hein, selon le récit, même s'il est donné sous un mode symbolique qui nous en est donné. Et on voit, justement, dans ces premiers chapitres de la Genèse, comment cette séparation de l'homme avec Dieu, va provoquer le désordre progressif dans les relations humaines. Hein? D'abord entre l'homme et la femme, vous le savez bien, puis au sein de la famille, c'est Caïn et Abel, n'est-ce pas? Et puis finalement à l'intérieur de tout le genre humain. Pour notre propos, l'épisode de Babel, au chapitre 11 de la Genèse, est particulièrement important. Les premiers versets du chapitre 11, vous pourrez les relire tranquillement si vous voulez. Babel, vous connaissez l'histoire, hein, de la tour que les hommes veulent construire. C'est la figure, évidemment, nous sommes dans un régime symbolique, mais c'est la figure de l'orgueil humain. De l'orgueil humain qui, justement, l'orgueil humain veut faire ou incite les hommes à faire leur unité sans Dieu. Non seulement à faire leur unité sans Dieu, mais, et c'est le symbole de la tour, à faire leur unité en se faisant l'égal de Dieu. La tour va jusque dans les cieux. Hein? Et ce que nous donne à voir le récit de la Genèse, c'est que Dieu, Yahvé, interdit finalement à cette construction d'aboutir. Hein? Et vous savez qu'il va y avoir une sanction divine à cette tentative des hommes déjà marquée par le péché et donc séparée de Dieu. Cette tentative de faire leur unité sans Dieu, c'est que Dieu va frapper le genre humain de la confusion des langues, la séparation du genre humain par les langues. Et nous savons très bien, aujourd'hui encore, tout ce que cela peut représenter. Cette confusion des langues, c'est le châtiment de l'idolâtrie, car l'idolâtrie, c'est vouloir se faire l'égal de Dieu, ou en tout cas, singer l'œuvre divine sans recourir à lui. À partir de ce moment-là, vous le savez, Babylone, Babel, devient très clairement dans la première alliance, hein, à partir du 7e siècle, justement, bon, le développement de Babylone, la figure de la cité du mal, hein, qui va s'opposer à la cité de Dieu, pour prendre le vocabulaire de saint Augustin. Hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela, de ce récit, évidemment, présenté sous un mode symbolique, mais qui nous dit quelque chose de réel? C'est qu'à partir de ce moment-là, le genre humain, qui, je le répète, avait été conçu par Dieu dans l'unité, est désormais fractionné en groupes humains. Ce sont précisément les nations, au sens biblique du terme, hein, pas au sens moderne. Qu'est-ce que c'est que les nations, au sens biblique? Ce sont, au fond, des groupes humains, des peuples, organisés, si vous voulez, chacun en général avec sa langue, et bien souvent avec sa religion. Les nations sont toujours religieuses. La plupart du temps, hein, les peuples humains sont des peuples religieux, aujourd'hui encore. Il faut être dans la vieille Europe, anciennement chrétienne, pour découvrir des populations qui ne sont plus religieuses. Bien. À partir de ce moment-là, vous voyez, dès le départ, on voit un genre humain qui est fractionné. Mais n'oublions pas que ce n'était pas le dessein premier de Dieu, justement. Son dessein éternel, c'est que le genre humain soit dans l'unité. Alors, face à ces effets du péché, vous le savez, Dieu va répondre par l'œuvre accomplie par son Fils dans son incarnation. C'est l'œuvre de salut. Il vient sauver les hommes. Il vient sauver les hommes, et le salut que le Christ nous apporte n'est pas seulement un salut individuel, il doit toucher également l'ordre collectif, puisque le commun, le collectif, fait partie du dessein de Dieu. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette très belle parole dans l'évangile de saint Jean, chapitre 11, versets 51-52, à la veille de la... lorsque Caïphe, le grand prêtre, décide la mise à mort de Jésus, hein, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et Jean dit, il disait cela non seulement parce que Jésus devait mourir pour le peuple, Israël, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le Christ est mort aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc vous voyez par là que Dieu n'abdique pas de son dessein d'unité des âmes. Mais alors comment va-t-il le réaliser? Et c'est là que les choses deviennent très étonnantes. Qu'en est-il au matin de Pâques, une fois que l'œuvre pascale du Christ est accomplie? Et au fond, comment Dieu nous sauve-t-il? J'attire votre attention là-dessus, quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en lumière, me semble-t-il. On en est familier, mais on ne se rend pas compte un peu de caractère très étonnant, insolite de la chose. Le Christ, Dieu à travers Jésus-Christ, nous sauve en nous redonnant l'essentiel de ce que nous avions perdu. C'est-à-dire la participation à sa vie. L'effet premier du péché des origines a été de couper l'homme de Dieu parce que l'homme, s'étant détourné de Dieu, a perdu cette participation à la vie divine dans laquelle il avait été créé et pour laquelle Dieu l'a créé. Il ne faut pas oublier ça et on l'oublie trop. L'homme, les humains, le genre humain, le monde est fait pour cette œuvre conjointe, vous voyez, du naturel et du surnaturel, de l'humain et du divin. Donc, l'effet du mystère pascal du Christ, son œuvre de rédemption, c'est de nous redonner l'essentiel de ce qui était perdu, ce qu'on appelle, en langage courant, et on le retrouve dans l'Écriture, hein, chez saint Paul, la grâce du Saint-Esprit, participation à la vie de Dieu. Mais qu'en est-il des désordres induits par le péché ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne sont en rien changés. Les désordres intérieurs à la nature humaine, la disharmonie qui marque la nature humaine, les désordres relationnels que j'évoquais tout à l'heure entre l'homme et la femme, entre les membres d'une même fratrie, à l'intérieur d'un peuple et entre les peuples, tous ces désordres demeurent. Le Christ aurait parfaitement pu restaurer le genre humain dans son état intègre d'origine. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au matin de Pâques, apparemment, à vue humaine, rien n'a changé. Et vous savez bien que c'est là, à mon sens, l'objection la plus radicale adressée au christianisme. Quoi de neuf depuis 2000 ans ? Y a-t-il moins de guerres ? Y a-t-il moins de divisions ? Y a-t-il moins de dissensions entre l'homme et la femme ? Comment comprendre cela ? Comment comprendre cela ? Ça, c'est le dessein de Dieu. C'est son dessein rédempteur. Je crois que la seule façon de le comprendre, d'essayer d'éclairer cela, c'est de comprendre que, en nous redonnant l'essentiel, c'est-à-dire la participation à la vie divine, autrement dit la grâce, Dieu nous donne le moyen divin d'œuvrer à la restauration de ces désordres. C'est vrai pour chacun de nous au niveau individuel. La grâce qui nous est donnée, que nous avons reçue à notre baptême et dans laquelle nous espérons être renouvelés, tout spécialement par la pratique sacramentelle, nous aide à refaire en nous cette unité qui n'est pas spontanée. Je ne sais pas si ici, sans doute, peut-être à la paroisse du Christ roi, tous les fidèles sont dans un état tel que leur raison commande immédiatement et impérativement à leur passion. Ben, c'est quand même pas si général. Hein, on s'en rend bien compte. Ce n'est pas spontané, mais cela peut être atteint avec le secours divin. Eh bien, vous voyez ce qui se passe dans l'ordre individuel, absolument singulier, a vocation à se passer dans l'ordre communautaire. Le matin de Pâques, la division du genre humain en nations demeure. Mais, en donnant la grâce, Dieu donne aux hommes la possibilité d'œuvrer à la restauration de leur unité. S'ils le veulent bien, s'ils le veulent bien. Et, c'est ça qui est encore plus surprenant, par là même, Dieu, par le Christ, et dans l'Esprit, par l'œuvre de les conjointes du Christ et de l'Esprit, va susciter au fond une société d'un type nouveau, qui s'appelle l'Église, qui est une communauté politique, mais d'un genre tout à fait différent, puisqu'elle est d'un genre surnaturel. Alors que les autres communautés politiques sont d'ordre naturel. Elles ne sont donc pas sur le même plan. Et cette communauté politique nouvelle d'ordre surnaturel, l'Église, au fond, a vocation à être le ferment intérieur, si vous voulez, au sein de ces communautés politiques naturelles, pour que les hommes qui y vivent, qui y agissent, et qui cherchent à vivre en paix, précisément, réalisent ce bonheur de vivre en commun et cette harmonie au sein d'un même peuple et entre les peuples. Je crois que le dessein de Dieu, c'est ça. C'est que les hommes puissent coopérer à l'œuvre de restauration de ce que le péché des origines a si gravement abîmé. Bien. Donc, avec la grâce de Dieu, dans le projet divin, créateur et rédempteur, si les hommes le veulent bien, ils peuvent œuvrer à refaire, non sans le secours divin et en s'appuyant sur l'aide de Dieu, cette unité au sein du peuple auquel ils appartiennent, parce que les peuples ne sont pas supprimés, et entre les peuples. Alors maintenant, nous passons à la rubrique historique. Comment cela s'est-il passé ? Et au fond, comment, justement, les chrétiens ont vécu de cela dans le monde. Mon propos est toujours d'aboutir à la situation contemporaine. Bon, vous voyez, la question du politique en théologie, c'est celle-là. Quand je dis du politique, c'est du politique au sens naturel, n'est-ce pas ? Comment les fidèles, les chrétiens, peuvent-ils œuvrer de sorte que, à travers la vie des communautés politiques, qui fait partie du dessein créateur de Dieu, ce soit aussi le projet de Dieu sur le monde, le projet de salut, qui se réalise, autrement dit, l'édification du royaume dans le monde. Alors vous savez, grosso modo, comment cela va se faire, au moins pendant un bon moment. Après les temps apostoliques, les deux premiers siècles, grosso modo, si vous voulez, l'Église naissante qui ne réfléchit pas encore à ces questions, après les grandes persécutions du IIIe siècle, les choses vont prendre un tour très particulier dès le début du IVe. Puisque, à partir du début du IVe siècle, par la conversion réelle de l'empereur Constantin, l'Empire romain, qui représente à l'époque presque l'orbis terrarum, l'ensemble du monde habité, comme saint Luc nous le fait comprendre dans l'annonce de l'incarnation, l'Empire romain va entamer son long processus de christianisation. Et on va entrer à ce moment-là, politiquement parlant, vous voyez, dans une physionomie très particulière qu'on appelle la chrétienté. Qu'est-ce que c'est que la chrétienté ? Je précise les choses parce que ce n'est pas toujours bien compris. La chrétienté, c'est une conception du monde. Là, il n'y a pas de définition canonique, mais je vous en propose une très simple. Une conception du monde et des communautés humaines, dans leur diversité, leur multiplicité. Une conception selon laquelle les souverains temporels, c'est-à-dire l'ordre politique courant, les souverains temporels contribuent à l'édification du royaume de Dieu ici-bas autant qu'il est possible. Vous me saisissez ? Bon. Au fond, c'est un régime de coopération étroite de l'ordre naturel, temporel, comme on dit, et de l'ordre surnaturel et religieux. Vous voyez, c'est une réponse à la question que j'évoquais il y a quelques instants du politique. Que font les hommes dans l'ordre politique dès lors qu'ils reçoivent le message de l'Évangile et la grâce de Dieu, surtout ? Ils cherchent à réaliser un monde, n'est-ce pas, qui soit le plus possible conforme au projet de Dieu sur le monde. Et l'Église, dans ce contexte, n'est-ce pas, au moins au départ, est la matrice intérieure, si vous voulez, d'unification du monde chrétien. Ce modèle, pour simplifier, je dis ça à très grands traits, bien entendu, nous sommes condamnés à des grandes simplifications. Mais je cherche à aller à l'essentiel et je crois ne pas falsifier la vérité. Ce modèle, pour simplifier, va durer du début du IVe siècle à la fin du XVIIIe. C'est-à-dire quand même très longtemps. Et quand je dis la fin du XVIIIe, en fait, le processus de sortie de chrétienté, amorcé très clairement en 1789, car c'est ça que cela signifie pour nous, c'est un jugement historique, c'est pas un jugement de valeur, c'est ce qui s'est passé. Ce processus va s'étendre finalement à tout le monde chrétien au long du XIXe et du XXe siècle. Alors, 15 siècles, grosso modo, si vous voulez, 14 ou 15, sur 20, c'est quand même beaucoup. Donc, pendant toute cette période, voyez, même à la fin, au XVIIe, au XVIIIe siècle, alors même que les idées nouvelles, j'en dirai quelques mots, se répandent et qui tentent à s'éloigner évidemment du christianisme, non, les souverains se considèrent comme au service de l'édification du royaume de Dieu, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directement. Même les États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible. À l'origine, cela voulait dire quelque chose. Et sur le dollar, il y a marqué « In God we trust ». Je ne sais plus trop ce que cela veut dire. Ce qui est sûr, c'est que ce que je crois, et c'est ce qu'on n'ose pas trop dire, c'est que ce modèle de chrétienté, qui a eu une grandeur immense, hein, bien évidemment, tout ce que nous admirons encore en matière d'art, d'architecture, de pensée, pourquoi se réfère-t-on encore, et pas seulement par archaïsme, aux grands théologiens médiévaux ? Ce sont les magnifiques, les sublimes produits de la chrétienté. Hein ? Pourquoi telle église, petite église romane du début du gothique, du Lauragais, nous émeut tant ? Voilà, il s'est passé quelque chose. Hein ? Bon, nous en avons de multiples signes. Inutile de développer. Bien. Eh bien, cependant, cette chrétienté, non pas dans ses principes, mais dans sa pratique, je crois, a généré elle-même son propre déclin. Elle a été la cause, je crois fondamentalement, de sa propre destruction. Je voudrais vous en donner quelques causes, à mon sens. Ça fait longtemps que je réfléchis sur le sujet. Parce que, voyez-vous, les bons chrétiens, bien souvent, invoquent tout de suite les forces antichrétiennes, la libre pensée, les lumières, etc., pour justifier les événements qui vont provoquer effectivement la cassure brutale de la chrétienté à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la cassure de ce régime de coopération-conjonction du temporel et du spirituel. Mais je crois que, si toutes ces raisons peuvent être valables, il ne faut pas oublier qu'elles s'enracinent sur des raisons beaucoup plus profondes qui viennent des temps chrétiens eux-mêmes. Je vous énumère quelques causes, vous pourrez développer si vous voulez, qui pour moi sont à l'origine, en fait, de la remise en cause de l'intérieur de la chrétienté. Premièrement, gravissime, l'Église, assez tôt, est devenue elle-même une puissance temporelle. Et ceci, quand je dis que c'est assez tôt, remonte, au fond, à partir du moment où l'Église a eu un territoire à elle. Donation de Pépin le Bref au pape Étienne en 754. Les premiers états pontificaux qui vont empoisonner la vie de la chrétienté, au moins jusqu'en 1870. Vous savez que la question sera réglée en 1928 par les accords du Latran, ça fait quand même assez longtemps. Pourquoi est-ce un drame ? C'est que l'Église est devenue une puissance temporelle et elle s'est mise à entrer en rivalité avec les autres puissances temporelles. Or, elle n'est pas une puissance de nature temporelle, elle est une autorité spirituelle. Première faute très grave. Avec tout ce qui va avec. C'est une puissance temporelle, elle est riche, elle a des armées, elle a des territoires, elle a des milices, etc. Il ne faut pas se leurrer. Les temps de chrétienté et les temps du les grands siècles du Moyen-Âge ont été extrêmement marqués par cela. Ne croyez pas que c'était une période irénique. Hein. Le pape excommuniait à tour de bras les souverains, empereurs, rois, etc. Bon. Deuxièmement, l'Église a connu à plusieurs reprises, en particulier à partir du milieu du Moyen-Âge, des phases de grande immoralité. Il faut avoir le courage de le dire. Lisez les lettres de Catherine de Sienne, adressées aux papes, aux cardinaux, aux évêques en particulier. Vous serez édifiés. Corruption, népotisme, simonie, trafic d'indulgence, on n'ose pas trop regarder cela en face, cela a joué un rôle terrible pour la fin de la chrétienté. Cardinal Congar, le père Congar, avait coutume de dire « Quand je traverse la place Saint-Pierre de Rome, j'admire, évidemment, l'église de Brabant et la colonnade du Bernin. Mais je me dis que ça nous a quand même coûté un schisme. » Comment tout cela a-t-il été payé ? Par les indulgences. Dans la foulée de la Réforme, justement, les guerres de religion ont été certainement l'un des facteurs les plus décisifs pour la rupture de la chrétienté. Pourquoi ? Parce que le phénomène religieux à l'intérieur du monde chrétien, a été immédiatement perçu comme une source de désordre pour les communautés politiques. Et très vite, à partir du XVIe siècle, on cherche précisément à cantonner le religieux dans la sphère publique, de sorte qu'il ne suscite pas trop de désordre. On l'a trop oublié. Autre facteur, l'Église a utilisé pendant longtemps des moyens non évangéliques pour le service des vérités de la foi. J'appartiens à un ordre qui a été assez marqué par l'histoire de l'Inquisition. Je sais un peu de quoi je parle. L'Église est entrée en conflit à l'époque moderne avec précisément la science moderne, et ceci au début du XVIe siècle. C'est le drame de l'affaire Galilée, qui n'est pas une affaire mineure. À partir de ce moment-là, le rapport pour les chrétiens même, en tout cas certaines autorités dans l'Église, entre la raison naturelle et la foi, semble compromis. Et c'est très grave. Parce que la raison naturelle, c'est Dieu qui l'a donnée à l'homme. Enfin, on pourrait multiplier la liste. L'Église s'est appuyée, on le voit très très bien à l'époque moderne, dans la phase finissante de la chrétienté au XVIIe au XVIIIe siècle, sur les régimes politiques les plus absolutistes et donc les plus fermés à l'essor démocratique qui cependant se faisait jour depuis la période médiévale au sein du monde chrétien. Et donc l'Église elle-même s'est fermée, n'est-ce pas, à la reconnaissance de ces mouvements qu'elle a bien fini d'ailleurs par reconnaître, mais qui animaient le monde des communautés politiques chrétiennes, qui étaient essentiellement chrétiennes, n'est-ce pas, déjà depuis des siècles. Exemple type, bien sûr, le soutien inconditionnel au royaume de France, symbole de l'absolutisme. Tout ceci a été funeste. Le résultat, c'est précisément cette rupture brutale, très violente, du régime de chrétienté en 1789 et ensuite dans ce mouvement qui va se répandre au fond, dans toutes les terres de chrétienté en Europe et également en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et c'est si vrai que on va voir que les autorités de l'Église, ou l'Église à travers ses autorités, les papes, l'Église va mettre un temps fou à prendre acte de la transformation. Pendant une grosse partie du XIXe siècle, si vous voulez, l'Église va être désemparée. Le seul modèle, si vous voulez, que l'on avait pour comprendre la situation des chrétiens dans le monde et dans les communautés politiques auxquelles ils appartiennent, ce seul modèle, la chrétienté, est brisé. Pendant des dizaines d'années, on va appeler au retour à l'ordre ancien. Il faudra attendre le pontificat de Léon XIII pour prendre acte qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Mais ça, maintenant, c'est quand même la fin du XIXe siècle. On a mis 100 ans, grosso modo, entre 1789 et le pontificat de Léon XIII, pour comprendre qu'il fallait penser la question politique pour les chrétiens à nouveau frais. À ce moment-là, on commence à réfléchir à une nouvelle conception du rapport au monde. Et on va voir, à partir de Léon XIII, et à partir, au fond, chez tous les papes qui vont suivre, il n'y a quasiment que des grands papes. C'est très frappant. Ça n'a pas toujours été le cas en chrétienté. Mais on n'est pas très conscient, très intelligent, il faut bien le dire. En tout cas, l'Église va se rallier progressivement, si vous voulez, à des acquis des sociétés modernes que je crois elle-même avait préparés. C'est ce qu'elle n'a pas été capable de voir, hélas. Je pense en particulier aux principes démocratiques que Léon XIII commence à reconnaître, que Pie XII va reconnaître encore plus explicitement et qui va être, si j'ose dire, consacré au Concile Vatican II. C'est bien. Mais si on avait lu Thomas d'Aquin, on aurait moins perdu de temps. Et je ne dis pas ça par parti pris. C'est que tout ça est articulé très clairement dans la théologie de l'Église au XIIIe siècle. Simplement, on l'a oublié. On a préféré défendre les régimes absolutistes pour sauvegarder les acquis, les avantages et les prébendes. Autre exemple, la sauvegarde des droits de la personne, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Eh bien, après avoir condamné à maintes reprises la déclaration des droits de 1789, eh bien, l'Église va quand même signer, avec grande solennité et dans la joie, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Oui, on a mis du temps à comprendre que tout cela n'était pas si mauvais, loin de là. Et c'est si vrai que je crois profondément que l'on trouve dans toute la théologie morale catholique les fondements à un édifice des droits de l'homme. Vous voyez ? Donc, on a, dans l'incapacité dans laquelle on était, on s'est retrouvé de penser justement l'ordre politique, si vous voulez, on a été à la traîne par rapport aux sociétés contemporaines. Et je crois que d'une façon largement inconsciente, si vous voulez, mais nos contemporains en sont très conscients, eux, sont habités par ça, le perçoivent, je veux dire. l'Église n'apparaît pas comme une instance, si vous voulez, lumineuse par rapport à l'ordre politique des choses. Et il faut reconnaître qu'elle a un passif qui, à mon sens, est assez solide. Alors le modèle, qu'est-ce qu'on va faire ? Le modèle, il va y avoir un modèle renouvelé, si vous voulez, qui va donc s'élaborer à tâtons, touche par touche, à partir du pontificat de Léon XIII. Et pour dire les choses simplement, il va être exprimé, ce modèle, en termes non systématiques, mais c'est bien présent, au fond, au Concile Vatican II. Le Concile Vatican II va tirer les leçons de ce qui s'est passé, va reprendre, comme toujours, les enseignements des papes, au fond, depuis une centaine, enfin, depuis Léon XIII en particulier, va retrouver bien des principes très présents dans sa tradition théologique qu'on avait oubliés, et finalement va proposer un modèle de coopération, si vous voulez, entre les chrétiens et le monde dans les communautés politiques, qui repose sur un certain nombre de pôles. Je vous les énonce rapidement, en simplifiant, comme toujours. Premièrement, désormais, l'Église reconnaît l'autonomie des sphères politiques et religieuses. Le Concile Vatican II dit bien l'autonomie et l'indépendance, c'est-à-dire chacune est souveraine dans son genre. C'est ce que l'on appelle, en bon français, une juste laïcité. Pas de confusion des genres. Les temps de chrétienté ont été trop marqués, justement, par cette confusion. Je crois qu'on tire les leçons aussi de l'histoire. On est capable de le faire dans l'Église. Donc, ça, c'est évidemment très important. Ensuite, reconnaissance, Concile Vatican II, et par la suite, les papes qui vont suivre, je vais en dire un mot, vont le rappeler sans cesse, reconnaissance du fondement personnaliste des sociétés libérales. L'importance du sanctuaire, au fond, de la personne, et du fait que, envers et contre tout, la personne doit être protégée. Affirmation, troisièmement, de la finitude de l'ordre politique. Tout en reconnaissant sa légitimité dans l'ordre naturel, on affirme qu'il ne saurait épuiser à lui seul toute la finalité qu'on évoquait tout à l'heure de la vie humaine. Il y a l'ordre surnaturel qui n'est pas de son ressort. C'est ce que dit très clairement la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae. Et lié à cela, l'Église affirme à Vatican II, c'est dans la Constitution Carbonium et Spes, que tout en reconnaissant l'autonomie et l'indépendance de l'ordre politique dans sa sphère, juste autonomie des réalités terrestres, comme dit le Concile, cependant, l'Église s'estime fondée à porter un jugement moral, même en des matières politiques, lorsque les biens fondamentaux des personnes ou des communautés humaines ou le salut des personnes sont en cause. Donc, vous voyez, tout en respectant l'autonomie de l'ordre politique, et vous voyez bien que c'est le cas, en même temps, si l'on estime que pour des raisons morales graves, cet ordre politique se dévoie, l'Église estime qu'elle est fondée à intervenir. Vous voyez, non pas directement sur des questions politiques, mais sur les fondements moraux des enjeux politiques. Je ne sais pas si je suis assez clair, ça doit éveiller pour vous quelques petites choses, parce que nous sommes complètement là-dedans. Je vais y revenir, justement. Évidemment, dernière chose, l'Église appelle et souhaite à Vatican II que ces deux sphères, politiques et religieuses, coopèrent le plus possible pour le bien des personnes, puisque ce sont les mêmes en principe qui appartiennent à l'une et à l'autre. Au fond, on a pu croire que, et on a cru, et à juste titre d'ailleurs, qu'au fond, vous voyez, un nouveau modèle harmonieux de relations autres pouvait être pensé. Et j'en viens maintenant à mon dernier point, à la situation contemporaine, mais dans la lumière de Vatican II. Pourquoi ai-je employé le conditionnel pour vous dire on a pu croire ou les choses auraient pu bien se passer dans ce sens ? De fait, au fond, le modèle Vatican II, si vous regardez dans un pays comme le nôtre, pour simplifier, puis il y a toutes les variantes d'un pays à l'autre, Mais il a bien fonctionné entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 60. Au fond, c'est ça qu'on a vécu. C'est ça qu'on a vécu. C'est pour ça que Vatican II, d'ailleurs, tire les leçons du XXe siècle. Hein. Il y a toujours des querelles hein, qui peuvent surgir. Mais grosso modo, une relation pacifiée entre les chrétiens et le monde politique, et les chrétiens pouvant participer à l'édification du monde politique dans ces conditions. Ce qu'il apparaît aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que ce que j'appelle le modèle Vatican II, qui est toujours en vigueur, hein, repose en fait sur quelques présupposés non écrits pour fonctionner. Le premier présupposé, c'est que les sociétés libérales dans lesquelles il s'est développé, il s'est manifesté, hein, les sociétés anciennement chrétiennes sont toutes des sociétés libérales, au sens courant du terme. Les sociétés européennes ou américaines étaient des sociétés encore très marquées par l'empreinte du christianisme. Ce qui veut dire que les populations étaient d'ailleurs, la plupart du temps, majoritairement chrétiennes. Elles le sont encore d'ailleurs nominalement, hein, quelquefois, quand on dit majorité, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien les équivoques de ces considérations statistiques. Bon, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que la foi chrétienne demeurait un ferment actif, si vous voulez, pour la vie des citoyens, leur vie personnelle et leur vie en société. C'est encore très net au milieu du XXe siècle, dans les années 50. C'est net en Europe, c'est net en France, c'est net aux États-Unis. Hein? Jacques Maritain, qui enseigne à Princeton à ce moment-là, l'écrit et justement cherche à penser, vous voyez, un modèle, comme il disait, de chrétienté non sacrale, pas de retour, n'est-ce pas, au régime ancien, donc correspondant à la situation de l'époque. Encore, donc, avec des populations, vous voyez, encore très marquées par le christianisme et vivant le christianisme. Vous voyez, il s'agit, c'était encore le ferment intérieur de ces sociétés. C'est pour ça que ce régime de coopération dans le respect de la distinction et de l'autonomie, si vous voulez, a pu sembler satisfaisant. Et il l'a été pendant quelques dizaines d'années. Deuxième condition non écrite, à mon sens, et liée à cela, à ce que je viens de dire, et mes conditions aussi de compatibilité entre la conception chrétienne des choses et l'ordre politique général des sociétés, c'est que l'ordre politique libéral, les sociétés libérales comme la nôtre, reposaient, prétendaient reposer et se fonder sur l'ordre naturel des choses. Très concrètement, au fond, la conception, les fondements de l'organisation de ces sociétés, c'était l'ordre du droit naturel. Hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Cela remonte très loin. On a évoqué Aristote tout à l'heure, il est le premier à parler d'un juste naturel. Et celui qui va développer ça, enfin, les écoles qui vont développer ça, c'est très clairement hein, l'école stoïcienne grecque, puis romaine, dont Cicéron sera une des plus belles expressions. Hein? Donc, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas chrétien, hein? Comme tel. On a toujours reconnu, jusqu'à il y a peu, que justement, on pouvait, l'esprit humain, la raison humaine, pouvait discerner les principes naturels qui puissent guider son action, et en particulier l'organisation des communautés humaines. Toute la grandeur de la pensée politique romaine, grecque d'abord, puis romaine, hein, et finalement chrétienne, qui a assimilé ces conceptions philosophiques, reposait là-dessus. Et cela, on a vécu dessus pendant très longtemps. Même les Lumières que j'évoquais il y a quelques instants, qui à bien des égards ont suscité l'éloignement et la rupture, n'est-ce pas, avec un ordre chrétien des choses, mais les Lumières l'ont fait, ou l'ont provoqué cette rupture, en se référant à un ordre naturel. La déclaration des droits de l'homme de 1789 repose sur une conception d'un ordre naturel que précisément on entend substituer à un ordre chrétien. Et donc, au fond, c'est là que j'y où gisait, si vous voulez, la profonde compatibilité entre l'ordre libéral et l'ordre chrétien. C'est que cet ordre naturel, il vient de Dieu. Et s'il est bien compris, n'est-ce pas, eh bien, les chrétiens s'en accommodent parfaitement. C'est ce qu'on avait trop longtemps, d'ailleurs, oublié dans les réactions contre-révolutionnaires au XIXe siècle. Je ne sais pas si je suis assez clair. Vous me saisissez à peu près là-dessus? Bon. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé, justement, hein, c'est que donc, à partir du moment, et l'Église a compris consciemment, hein, les grands auteurs, Pie XII a très bien, été très, très bien compris cela, Léon XIII, hein, qui était un très grand esprit et très bon théologien, hein, a très bien compris qu'à partir du moment où l'ordre politique s'édifiait sur des bases conformes à la nature de l'homme et respectait cette nature, eh bien, mon Dieu, les chrétiens pouvaient y être tout à fait à l'aise. Tu veux dire, et y coopérer, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Bon. Au fond, voyez, cette compatibilité de fond, elle pouvait être assurée parce qu'au fond, cet ordre naturel, il vient de Dieu lui-même. Je crois, donc, comme je vous le disais, qu'on a pu vivre cela, grosso modo, nolens volens, comme on dit, bon gré mal gré, entre 1918 et 1968. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Vatican II intervient dans cette période, hein, on voit bien. Bon. Le problème, pourquoi 68? C'est qu'on va passer, là encore, d'une façon non écrite, je crois que j'en ai déjà parlé ici, peut-être l'année dernière, on va passer de la modernité politique qui se fondait sur l'ordre naturel à une postmodernité qui s'en éloigne radicalement. Pourquoi? Cet ordre, cette post-modernité politique qui émerge dans les années 60 et qui se déploie et dans laquelle nous sommes maintenant totalement plongés, elle est caractérisée par l'abandon de facto et très vite de jure de la référence au droit naturel. Désormais, il n'y a plus aucune norme, justement, tirée de la nature ou de quoi que ce soit, qui s'impose à l'ordre juridique et moral, qui dès lors est livré à un total empirisme. Vous saisissez la transformation, hein? Ce qui, vous le voyez très bien, par exemple, dans l'éducation, hein? Les hussards de la République, hein, qui n'étaient pas faits pour remplir les églises, mais la morale républicaine, lisez Peggy, elle repose sur cet ordre naturel. Et Peggy disait lui-même, la morale de l'instituteur et celle du curé, si on laisse la question des fins dernières de côté, ce sont les mêmes. Vous voyez, la compatibilité de l'ordre naturel et de l'ordre chrétien, dès lors que l'ordre politique se fonde et repose sur l'ordre naturel. Eh bien, c'est cela qui vole en éclats, très vite. Et pourquoi je dis 68? Parce que je crois que c'est la crise emblématique qui est précisément caractéristique de cela. On congédie toute référence, c'est pas, à un ordre naturel des choses qui avait vocation précisément à être prescripteur, au fond, pour l'organisation des sociétés politiques. Hein? Alors, et je crois, je pense que vous en serez d'accord, nous sommes totalement là-dedans. Écoutez aujourd'hui n'importe quel discours de dirigeants, inutile de les citer, sur la famille, sur les choix personnels, les conceptions de vie, nous sommes dans l'empirisme total. Et le refus, précisément, d'une référence extrinsèque au choix personnel. C'est vraiment une question de liberté. Hein? Bon. Alors, quelles conséquences, d'abord, pour l'Église, elles sont redoutables, parce que le porte-à-faux, désormais, entre ce à quoi est attachée l'Église, en termes anthropologiques, si vous voulez, hein, et en termes d'anthropologie communautaire, la construction des sociétés humaines, et l'ordre libéral actuel, post-moderne, se porte à faux, est de plus en plus fort. Et vous vous rendez bien compte que, année après année, l'écart ne cesse de se creuser, et les frictions ne cessent de se faire sentir. Hein? Non pas en raison, pour des questions d'institutions politiques, mais pour des questions qui engagent les fondements moraux de l'ordre politique. Exactement ce dans quoi nous sommes plongés. Hein? Pour résumer, l'anthropologie multiforme contemporaine, hein, relativiste, dirait Benoît XVI, des sociétés contemporaines, n'est pas compatible avec l'anthropologie chrétienne. Et donc, le modèle, si j'ose dire, Vatican II, qui reposait sur cette compatibilité possible par le fondement naturel, eh bien, au fond, ne fonctionne plus. Et ne fonctionne plus convenablement. Et vous rendez bien compte de l'extrême embarras des autorités de l'Église vis-à-vis des sociétés politiques. Au passage, il ne faut pas l'oublier, les conséquences pour le monde lui-même sont considérables. Parce que, alors, le modèle, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant, aujourd'hui même, le modèle libéral, je mets des guillemets, semble assuré d'un triomphe total. Et au fond, il repose sur la combinaison de plusieurs facteurs. Un libéralisme juridique généralisé, le droit accompagne toute activité humaine, l'absence de référence à toute norme morale contraignante, quelle qu'elle soit, et enfin, les prodiges des progrès de la raison scientifique contemporaine. Donc, pour employer le vocabulaire de Benoît XVI, dans sa belle encyclique Spe Salvi, c'est un nouveau triomphe de l'idéologie du progrès technique. Qu'on avait pu croire singulièrement mise à mal en 1945 au vu de ce que l'on avait réalisé, mais qui a repris vigueur aujourd'hui, je pense que vous en serez d'accord, rien ne résiste, rien ne peut résister, rien ne doit résister au progrès de la raison technicienne dans quelque domaine que ce soit. Et l'ordre politique n'est plus que l'accompagnateur de ce mouvement. Mais derrière ce triomphe apparent général, célébré à longueur de journée d'ailleurs, dans maintes revues, nous voyons bien que le monde est profondément déséquilibré, qu'il génère sans cesse des déséquilibres toujours plus profonds, et tout simplement qu'il n'apporte pas le bonheur aux citoyens. Je ne vais pas développer ça parce que le temps est un peu compté, mais si l'on réfléchit un peu avec le recul que j'ai essayé d'avoir, certes, un peu sommairement, je vous demande pardon, mais au départ, nous revivons en grand l'épisode de Babel. Le monde cherche à faire son unité sans Dieu. Eh bien, sans jouer les prophètes, je puis vous dire qu'il n'y parviendra pas. Parce que Dieu ne le veut pas. Et il l'empêchera. Et nous le voyons bien d'ailleurs qu'il n'y parvient pas. Alors, que faire dans ces conditions dans lesquelles nous sommes plongés, dans lesquelles nous sommes placés. Quelle attitude finalement des chrétiens vis-à-vis, aujourd'hui, vous voyez, du contexte politique. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut voter, ce n'est pas la question. Il y a d'abord des réactions, les réactions des papes. C'est assez intéressant de voir comment les papes ont réagi, très rapidement. Paul VI, on n'a que des papes très intelligents, Paul VI, très lucide, en même temps acteur de Vatican II, a pris le choc de mai 68 en plein visage, dans le monde et dans l'Église. Vous le savez bien. Significatif qu'après l'encyclicum anévité, qui n'a pas été reçu convenablement dans l'Église, vous le savez, il n'a plus écrit d'encyclique, à partir de 69. Jean-Paul II. Jean-Paul II est un homme qui vient du communisme. Jean-Paul II, il ne faut pas oublier ce que ça représentait, a espéré manifestement que la chute du communisme en 89 allait être l'occasion peut-être de se ressaisir et de construire notamment en Europe, l'ancienne Europe chrétienne, un monde libéral, mais qui fasse droit au christianisme et en tout cas à l'ordre naturel. Et je crois qu'il a compris, chemin faisant, que cela ne se ferait pas. D'où ses textes successifs mettant en garde contre les évolutions de ce monde. Son encyclique Veritatis Splendor en 1993, son encyclique sur l'évangile de la vie en 1995 et quantité d'autres textes. Et Benoît XVI, qui est d'une lucidité totale par rapport à la situation des choses, lui, avait une conscience très aiguë de cette dérive du monde, d'où tout son discours sur le relativisme moral, éthique, si vous voulez, mettant en cause la cohésion même et la cohérence même des sociétés politiques. Il en a eu un sens très très aigu, et il l'a dit, il l'a écrit. Il a cherché à préserver autant que faire se peut, si vous voulez, des lieux, au fond, de chrétienté authentique dans un monde entièrement soumis, finalement, au relativisme. Et le pape François n'est pas en reste. Simplement, il se saisit des choses autrement. Il a parfaitement conscience de cette situation. Mais, compte tenu de la gravité, si j'ose dire, des choses et de l'état du monde, vous avez remarqué comment il réagit. Plutôt que d'avoir une parole imprécatoire, dénonçant, il le fait quand il le faut, mais il privilégie un discours de secours apporté au monde. Hein, sa thématique de l'Église comme hôpital de campagne exprime bien cela. Il s'agit de venir au chevet d'un monde malade, qui va mal, qui ne veut pas le reconnaître, mais qui a besoin d'être secouru. Et nous, dans tout cela, nous, vous, je crois qu'il est important d'éviter deux réactions extrêmes et contraires, hein, pour essayer de situer les choses. Inutile de vous dire qu'on aboutit à une situation inconfortable. Première réaction, à mon sens, mauvaise, à éviter, sans doute la réaction majoritaire, l'indifférence. L'indifférence à l'enjeu politique. Je crains, je me trompe peut-être, peut-être me le direz-vous, j'essaierai de vous croire, je crains que la majorité des catholiques soit dans cette situation aujourd'hui. Parce qu'ils ont intégré, au fond, en eux-mêmes, ce principe de séparation des sphères publiques et privées, et que pour eux, la religion, c'est une affaire privée, et que les affaires publiques se gèrent autrement, sans rapport. Deuxième réaction à éviter, à mon avis, à proscrire, la réaction contraire. Le rejet du monde et sa déprécation, justement, le discours selon lequel le monde est mauvais, systématiquement, et la recherche de vie dans des petites sphères de chrétienté dans lesquelles on survivrait. C'est se couper du monde. Je ne crois pas que ce soit évangélique. Alors la situation qui en résulte n'est pas confortable. Trois points simplement, très rapidement pour terminer. Premièrement, je crois que l'exigence pour tout chrétien, pour les familles chrétiennes, c'est de mener la vie théologale la plus authentique qui soit. C'est-à-dire une vie de charité. La valeur, dans un monde comme le nôtre, du témoignage de la charité vécue et pratiquée n'a pas de prix. Et c'est l'exigence première que le Christ nous adresse. Hein? Paul VI l'avait déjà dit. Hein? Le monde d'aujourd'hui a d'abord besoin de témoins, et de témoins de la charité en acte. Deuxièmement, je crois que les chrétiens sont appelés à avoir du courage, et le courage du témoignage. Du témoignage par les actes et du témoignage par la parole. Évidemment, en temps opportun, hein, in tempore opportuno. Mais oser dire que le monde est malade sans l'accabler, n'est-ce pas ? Et que la façon dont il se construit ne peut pas apporter le bonheur à l'homme. On pourrait développer ça face à des événements récents qui ont marqué la société française, comme le phénomène des gilets jaunes. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se référer à l'Évangile, non pas comme un étendard que l'on va brandir, mais comme une sagesse suprême qui éclaire les réalités humaines. Vous voyez, on le voit dans les débats autour des questions de bioéthique contemporaine. Hein. Il y a un discours qui est parfaitement justifié, qui se situe au niveau naturel, hein, pour montrer pourquoi telle ou telle mesure n'est pas recevable. Mais je crois qu'il ne faut pas que cela escamote la parole authentiquement chrétienne sur la question. J'ajoute à cela que, lié à cela, il ne faut pas oublier, et il ne faut pas avoir peur, il faut savoir qu'il n'est pas surprenant que les chrétiens aient des ennemis. Le Christ a eu des ennemis. Et il n'a pas dit « n'ayez pas d'ennemis », il a dit « aimez vos ennemis ». Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et il les a aimés. Et c'est ce que nous devons faire. Mais il y a une conception contemporaine qui voudrait que les chrétiens soient les amis de tout le monde. Et elle est assez répandue. Je ne crois pas qu'elle soit tout à fait juste. Enfin, en dernier lieu, vous allez me dire, mais qu'allons-nous faire? Eh bien, vous allez, en citoyen, voter en conscience. En conscience. Que chacun, en conscience, face aux enjeux qui sont présentés, qui se présentent à lui, se détermine au vu des enseignements de l'Écriture, de l'histoire de l'Église et de l'enseignement contemporain de l'Église. J'ai été un petit peu long, je vous demande pardon, mais je vous remercie.